France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on va faire un tour dans la jungle moite, bruyante et sanglante d'un des monstres les plus mythiques du cinéma d'action, Predator. Parce que la saga, née en 1987, est de retour avec un nouvel opus, Predator Badlands, actuellement dans les salles. Tout a commencé avec un film qui à la base devait juste être un shoot de testostérone, Arnold Schwarzenegger, unité de commando surentraînée, un peu de guerre froide, des bras de fer musclés, et puis soudain, quelque chose dans les arbres apparaît, invisible, intelligent et plus dangereux que tout le monde. Près de 40 ans plus tard, Predator reste cette franchise étrange, mi-série B, mi-mythe de science-fiction, toujours entre le pur divertissement et une réflexion sur ce que c'est finalement être le chasseur ou la proie. Comment cette saga est-elle devenue culte malgré ses suites inégales? Que raconte-t-elle à sa manière de la virilité, du pouvoir et même de la peur? Et surtout, que vaut ce nouveau chapitre Badlands, retour en force ou ultime track de trop? Pour en parler, j'ai trois invités qui connaissent le terrain. Yerim Sarr, journaliste et critique, paf, streamer et passionné de cinéma, Man Matt, youtubeur qui a récemment revu l'intégralité de la saga. On va donc l'explorer, cette saga culte, tout de suite à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
You're one ugly motherfucker.
Rien de... de cette réplique mythique de Schwarzenegger, extrait donc du premier film, du premier film de 87 réalisé par John McTiernan. On va commencer par le commencement, mais qu'est-ce qui fait selon vous que ce premier film est autant culte, Yerim? Qu'est-ce qui explique, parce qu'à la base effectivement c'est un film qui sort dans une décennie où il y a beaucoup de cinéma d'action, et on peut voir Predator comme un énième action movie avec Schwarzenegger, et en fait c'est devenu autre chose. Qu'est-ce qui a selon toi l'a rendu un peu différent des autres?
Bah justement c'est ça, c'est que t'arrives sur une base de film où tu dis ça va être un commando de gros bras.
Comme le film Commando d'ailleurs avec Schwarzenegger qui s'appelle Commando.
Où chacun, enfin ils font des blagues, ils sont tous survirils, etc. Et en plein milieu, t'as une menace inédite et absolue qui arrive, et déjà rien que le fait d'avoir cette équipe d'acteurs-là, donc que ce soit Schwarzy lui-même, mais même tous les autres en vrai, hein. Qui du coup se retrouve à jouer des personnages complètement terrorisés et perdus. Ça déjà, ça te fait...
C'est un contre-pied dans cette décennie-là où effectivement les personnages étaient rarement effrayés en fait.
Bah c'est ça, c'est-à-dire que là t'as quand même une des premières fois à l'écran où t'as Schwarzenegger qui a l'air pétrifié de terreur. Et surtout, faut pas oublier, bon, nous on l'a pas découvert dans ces circonstances-là parce qu'on était trop petits voire pas nés, mais en gros. Tu ne sais pas du tout ce qu'est le Predator. Enfin, c'est un peu comme le premier film Alien. En fait, t'arrives dans le film, tu n'as absolument aucune idée de ce qui t'attend. Et il y a évidemment la réale de McTiernan qui fait que la jungle devient un personnage en soi. Et que là où tu pouvais te dire, je pense, en voyant de loin, tu vois par exemple les 15 premières minutes, tu peux croire que c'est un film un peu con-con, où ça va être, comme t'as dit, que des gros bras qui vont exterminer tout ce qui bouge. Et tout d'un coup, ça devient complètement autre chose. Le fait que le monstre soit d'abord invisible, que tu vois par ses yeux, enfin, t'as ce truc de plus en plus oppressant autour d'eux, et ouais, c'est vraiment une des fois où tu te dis que ce qu'ils appellent le set design est vraiment très très bien utilisé. C'est-à-dire que la jungle, c'est pas juste un décor dans ce film-là. Et après, de toute façon, c'était la signature de McTiernan sur cette époque-là. C'est-à-dire que même quand il prend le building de Die Hard, il prend tout le building.
Exactement.
Les conditions, les trucs. Là, la jungle, c'est traité un petit peu comme ça.
Ouais. Nakatomi Plaza, dans le premier Die Hard. C'est vrai qu'on s'est fait McTiernan qui avait aussi d'ailleurs élevé un autre film avec Schwarzenegger, c'est Last Action Hero.
Tout à fait.
Qui est mal aimé, mais qui, Dieu sait qu'il a des qualités. Paf, qu'est-ce qui, selon toi, rend aussi le monstre, parce qu'il s'agit aussi d'un film de monstre, même si on le voit un peu différemment aujourd'hui, le rend aussi iconique, le Predator?
Pour moi, c'est vraiment... Alors déjà, il y a toute une histoire derrière. C'était censé être Jean-Claude Van Damme qui le jouait.
On va y revenir après, tout à fait.
Exactement. Tout à fait, mais je pense
c'est
que,
fou, ça.
Oui, déjà, rien que ça, c'est assez passionnant. Mais surtout, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, parce que Moi, j'ai rattrapé les Predators plus tardivement. Peut-être que vous avez un peu de nostalgie autour de ça, mais moi, je l'ai rattrapé vraiment il y a quelques années, tout au plus.
Et donc, du coup, c'est pas des films d'enfance pour toi ?
Pas du tout. Moi, j'étais plus team SOS Fantôme, Retour vers le futur, qui étaient des films plus accessibles, entre guillemets, et tout public. Mais c'est vrai que Predator, déjà, ce qui est assez passionnant avec le monstre, c'est qu'il y a un côté biomécanique, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est le pire de. Il semble à la fois naturel, à la fois biologique, quelque part. Et en même temps, il y a un côté militaire et armes plus puissantes que les armes qu'on a, nous, pauvres humains, quelque part, qui le rend, en fait, déjà alien, vu qu'on sait que c'est un extraterrestre plus tard, évidemment, mais qui le rend d'autant plus passionnant. Et puis aussi, comme tu dis, Yérim, il y a ce côté retourner la chasse, retourner le mythe de Schwarzenegger qui va taper tout le monde, etc., qui va être le plus fort, qui, là, va devenir totalement effrayé. Et on se dit, qu'est-ce qui peut effrayer la plus grande bête de son temps, qui est Schwarzenegger?
Mad Matt, est-ce que toi t'as aussi le même souvenir vis-à-vis du film lorsque est-ce que tu l'as vu pour la première fois récemment ou non, tu l'avais vu à l'époque? Quel rapport tu as avec ce film et avec aussi les émotions qu'il a pu te procurer?
Ben justement, je l'ai vu, je crois, je devais avoir 10 ans, donc ça remonte, et j'ai mis un petit moment avant de le revoir, j'ai dû attendre 2010 avant de le revoir une seconde fois, donc à la sortie de Predators en 2010,
oui.
Et j'avais quasiment rien oublié, ça m'avait tellement marqué. Bon, alors à l'époque, moi j'étais un petit peu, voilà, petite nature, ça m'avait effrayé, ça m'avait fait peur, et puis bah, c'est pour ça que c'était bien resté, mais ce qui m'avait davantage plu, même à l'époque, et encore maintenant, encore plus maintenant, c'est non pas le rapport avec le Predator, donc l'extraterrestre, qui d'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'on le découvre à la toute fin. Mmh. Au début, on le voit pas, il est invisible, enfin on l'entreaperçoit un petit moment, une petite seconde. Ça qui est génial avec Tierman, c'est qu'il fait bien durer le temps, et ce qui est fantastique, c'est qu'il y a tous ces moments, toutes ces scènes, où on le voit, enfin on voit à travers ses yeux, on se met dans sa peau, et on voit bah, que quand il voit tous les autres personnages avec son espèce de vision infrarouge, là, thermique, là, tout ça, dans sa tête, on se dit, mais comment il voit les autres? Il les voit sûrement comme des démons, comme des monstres, ou des choses comme ça. Mais ce que j'ai davantage retenu dans le film, c'est l'alchimie entre les personnages, tous les persos, parce qu'on parle souvent de Schwarzenegger, mais moi, j'oublie pas tous les autres. Bah, Carl Weathers, encore tous les autres gars. Bah,
Shane Black, également.
Shane Black, ouais.
Shane Black, qui est un réalisateur et scénariste, ouais, qui est dans Predator.
Et qui réalisera un autre Predator plus tard, mais
on et qui l'aura pas, j'imagine. Bien, ouais. Ouais. Je pense que, ouais. On est tous d'accord là-dessus, ou presque. Mais l'alchimie entre les persos est fantastique, et je pense que c'est une raison pour laquelle le film est aussi populaire, parce qu'ils font tous vraiment, pas que partie du décor, mais on ressent une réelle, comment dire, une réelle humanité entre chacun. Ils sont tous identifiables, Jess Ventura, le mec avec sa Gatling, avec son chapeau, Mac aussi, avec qui il devient super pote, ils ont tous les... Et c'est marrant parce que la caméra n'est pas constamment braqué sur eux, mais on ressent quelque chose. Et ça, c'est le génie de Tierman. De toute façon, on l'a ressenti également pour Piège de Cristal. Il a vraiment ce truc. Et je retiens que, juste par rapport à Predator, ce qui est fou, c'est que si vous regardez bien, quand vous le re-regardez, quand vous remettez le film dans votre tête, il y a très peu de plans qui sont vraiment iconiques. Par rapport à Piège de Cristal ou encore Lost Action Hero, il y a, on se rappelle tous des scènes dans la jungle, mais il n'y a pas de plan de dingue où on voit une vallée luxuriante ou des choses comme ça. Non, non, c'est on voit juste la jungle, les mecs super balèzes qui tirent sur une force invisible, mais il n'y a pas de plan, pas de plan vraiment iconique. Tout est principalement basé sur le scénario, l'alchimie entre les persos, je reviens dessus, et le mystère autour du Predator. Donc ça renforce encore le côté culte du film, c'est que même sans grand moyen du point de vue visuel, du point de vue, je me fais comprendre, hein, des grands plans, tout ça, là, James Cameron, eh bien, il reste inoubliable malgré tout.
Et c'est vrai qu'il y a toute cette question autour du Predator, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le tuer? Et bah, si ça saigne, c'est qu'on peut le tuer.
There is something else. When the big man was killed, you must have wounded it. Its blood was on the leaves.
If it bleeds, we can kill it.
Ça fait partie des répliques cultes de Schwarzenegger.
Qui sera reprise dans Prey, d'ailleurs, pour faire un petit clin d'œil fanservice.
Exactement, Prey, qui est un film plus récent,
plus récent,
Predator,
ouais,
qui a été plutôt, on en reparlera, mais plutôt aimé par une partie des fans. Est-ce qu'il y a aussi, parce qu'on parle du Predator, et il y a finalement quelque chose par rapport à d'autres grands monstres de l'époque qui sont juste terrifiants et qui veulent tuer coûte que coûte, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'ambiguïté autour du Predator, où c'est finalement pas un méchant classique, c'est un chasseur, une proie, enfin, il est finalement peut-être moins méchant premier degré que d'autres monstres de l'époque.
Bah, c'est-à-dire, oui, par rapport à l'exemple évident qu'on pourrait prendre tout le temps, en fait,
Alien.
Ce serait Alien, pour prendre le contre-pied de Predator, ou effectivement un Alien, comme sur le modèle de plein d'autres monstres extraterrestres ou pas d'ailleurs, c'est des dangers publics. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas voilà. de... Limite, il n'y a pas vraiment de civilisation alien, c'est vraiment juste des gros parasites horribles et tout. Alors que plus t'avances, même dans le premier film, hein, sans avoir tout le lore, parce qu'après peut-être qu'on en parlera, mais il y a eu déjà un univers étendu, il y a eu des comics, des bouquins, évidemment des jeux vidéo. Donc tout ça a permis de, voilà, pour le coup, d'explorer la civilisation prédateur. Mais en fait, juste avec le premier film, déjà tu comprends qu'il a une sorte de code, alors code d'honneur c'est beaucoup dire, parce qu'il est quand même surarmé par rapport aux soldats militaires humains, mais disons que si tu te mets dans la tête que pour lui c'est de la chasse, bah oui, en fait, il a le même rapport qu'un chasseur avec un super fusil à lunettes contre un chevreuil, tu vois.
Exactement.
Donc en gros, lui, il a ce côté très stratégique, c'est-à-dire qu'il ne fonce pas bêtement sur le commando. Il s'en prend d'abord au plus faible, puis au plus fort, il me semble qu'à chaque fois il fait ça. Mmh. Et surtout, c'est quand tu comprends qu'il... Alors, il est doué de paroles, oui et non, mais disons que tu peux communiquer à peu près avec lui, vraiment j'insiste sur le à peu près, et que oui, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui a cette espèce d'exosquelette, qui a quand même ce design où quand il enlève son masque à la fin, tu fais, d'où la réplique de Schwarzy, tu dis ok, c'est effectivement un extraterrestre monstrueux, mais avec un plan et cette espèce de course au trophée de chasse.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il épargne la jeune femme qui est juste une civile, parce qu'en fait, lui, il n'y voit aucune gloire, en fait, à tuer comme ça une femme désarmée, etc. Et t'as cette espèce de retour très primaire à l'animalité à la fin, où le moyen de vaincre le prédateur, en fait, c'est que Schwarzenegger lui-même renonce un petit peu à ses habitudes d'humanité militarisée, on va dire. Et finalement, il arrive à le vaincre avec des espèces de pièges rudimentaires. Exactement. Presque dans la forêt. Et à la limite, je te dirais que c'est peut-être ça le plan iconique, c'est Schwarzy qui hurle quand il s'est mis presque les trucs pas de tatouage, mais de camouflage, de combat et tout. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas le premier extraterrestre intelligent, mais disons que jusqu'ici, en tout cas dans les films grand public, t'avais
la menace,
soit la menace aveugle, danger public, monstrueuse, horrible, soit des extraterrestres qui sont là pour la conquête et qui limite sont déjà humanoïde. Et là, en fait, t'as un truc qui est incompréhensible. Enfin, il a des dreadlocks. Enfin, vraiment, c'est... et c'est un petit peu l'équilibre parfait entre les deux, quoi.
Bon. Alors, c'est vrai que c'est aussi un film qui très rapidement rentre dans la pop culture. Et des artistes qui ont fait référence. Et il y a même un rappeur très important des années 80-90 qui a appelé un album The Predator. C'est Ice Cube, avec un morceau éponyme The Predator qui sample la BO et qui sample aussi Schwarzenegger au début du
très
morceau.
Très bonne BO d'ailleurs, on l'a pas dit.
Bonne BO, exactement, notamment avec le thème d'Alan Silvestri. Mmh. Mais tout de suite, on va s'écouter ce morceau iconique, issu d'un classique d'Ice Cube, The Predator. There's no stopping what can't be stopped. No killing what can't be something out there waiting for us. You can run, but you can't hide from the west side. Night stalker, shit talker, run and tell them Mr. LM, nigga with the gat. And I'm back off the everyday prey that I slay. Rolling with a foe, chase you through South Central. Muggy Ridge ho, shit, know that she'll get the Bozak. Cause I'm not starving, but fuck Johnny Carson, ho, never had me on a late night show. Coming with the shit that'll hit steady mama, cause the flavor's good. There goes the neighborhood nigga with the third album. How come he don't fall off? Pulling with the sword off gauge. Turn the page of the chapter. Caught up in a rapture. But you know Anita, she can get the Peter. Eat him up, yum, and your Ford motherfucker. Billboard and the editor. Here comes the predator. No wind and coon, pretty soon we'll fuck them like they fuck us and won't kiss them. Rides ain't nothing but dodge for the system. Fighting with the beast, no justice, no peace. If any, even if we fuck up Denny. Niggas are sick of your white man tricks with no treat, that's right. Now it's on sight. You call me a Muslim, no I'm not a resident. Still got my vote in Farrakhan for president of white America. I'm tearing you a new asshole. Who's the nigga with the new black? Strolling
into your suburb house and I douse with gas. Now who's cleaning up trash? Eat them up, yum, and your Ford motherfucker. Billboard and the editor, here comes the predator.
Yep, I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out.
Here comes the predator. Got my black rag showing and I'm hoeing our Iran. I can kiss my grits like Flo O'Neal's diner. I'm meaner than a motherfucking hyena chasing antelope. Put my comb to your dome, watch it bust like a cantaloupe. I can't stand a rope, so don't try to hang them. Talk about dogs, boy, I can slang them. Rat-a-tat-tat on your noggin, cause ice will cream your ass like Häagen-Dazs chocolate. Get crazy when I catch wreck. Even be flipping a tongue like diddy-giddy dundi. It's effects. So who is Ice Cube? I'm a rapper, actor, macker. Got a little problem with the redneck cracker. Get the tallywhacker. Jerry Heller is a double shit packer. Coming with a crazy pitch. And the Statue of Liberty ain't nothing but a lazy bitch. Don't wanna give up the crack to the black. But you'll call it ratio if we go and break the hoe. But eat them up, yum, and your floor. Motherfuck Bill. And the editor, I am the predator.
Yep, I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out. Yep, I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out.
They indicate that when trapped, the creature activated a self-destruct device that destroyed enough rainforest to cover 300 city blocks.
Le morceau s'appelle The Predator, le rappeur est aussi légendaire que le film, il s'appelle Ice Cube et ça date de 1992.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Et nous sommes là pour parler de la saga Predator. Et Yérim, tu l'as dit, le thème, la bande-son du premier film est assez iconique. Je ne résiste pas à l'idée de nous mettre un petit extrait. Bande-son réalisée par Alan Silvestri, enfin composée par Alan Silvestri. On a parlé un peu du premier film qui effectivement revient tout le temps quand on parle de Predator. Et j'ai parlé dans l'introduction de suites inégales. Alors il y a des gens qui ont une grande affection pour Predator 2, j'en fais partie, parce que dès qu'il y a Danny Glover, je suis globalement content. C'est vrai qu'après il y a eu beaucoup de films. Comment, Mad, toi, comment tu vois un peu la suite de la saga après ce classique de McTiernan? Comment tu vois un peu les films qui suivent? Est-ce qu'il y en a que tu aimes? Est-ce que globalement tu trouves que c'est raté? C'est assez fou parce que c'est une saga qui perdure encore aujourd'hui, avec peu de films assez célébrés, hormis le premier en tout cas unanimement célébré. Comment tu perçois un peu le fait qu'elle dure autant?
Justement avant ça, j'aimerais bien revenir sur Predator 2, ouais. Parce que
je t'en supplie.
Justement, comme je l'ai revu, la première fois que je l'ai vu, j'étais oui, bon, c'est très mid, hein, c'est une suite.
Ça se passe à Los Angeles, d'ailleurs.
Oui, et c'est en fait, je l'ai revu donc dernièrement, et j'ai pas aimé du tout, mais c'est quand même resté. Je me suis dit, attends, je vais le remettre encore une fois, et en fait, je me suis dit, mais c'est génial en fait, parce que malheureusement, j'ai fait l'erreur, comme beaucoup en fait, notamment des fans de Predator, ils s'attendent à revoir sans arrêt la même chose à chaque film. Mais le monde évolue, les années, enfin, on évolue quoi, tout simplement. Ouais. On peut pas toujours refaire la même chose. Et si, d'ailleurs, certains ont tenté, on en reparlera plus tard, notamment Shane Black avec son Predator. Ouais. Il y aura beaucoup de choses à dire. Ouais, mais Predator 2, c'est juste, je reviens dessus. Ce qui est génial avec ce film, c'est que on passe de la jungle, la forêt, à la jungle urbaine, et avec un style qui est survitaminé. C'était un abonné qui avait relevé ça, c'est que c'est un film qui est quasi hystérique, voire épileptique. Ça ne s'arrête jamais, jamais.
Et il est beaucoup plus rythmé que le premier, finalement, quelque part, qui est lent par moment.
Incomparable. T'as les gangs de Colombiens, le vaudou, les flics, les mecs du gouvernement, le prédateur, les prédateurs, même. Bref, ça n'arrête jamais. Et concernant les suites, ça m'embête quelque part qu'il y ait eu des suites, parce que je pense que ce genre d'œuvre, quelque part, c'est pas qu'il faut les laisser mourir, mais les laisser un petit peu dans le temps de leur époque, parce que ça faisait partie d'une aura, et on sent bien que malheureusement avec la suite, ils ont voulu sans aller vers autre chose, mais sans réussir à conserver l'essence du premier. Et ce qui est un peu tragique, c'est que bon, on est passé directement, on est parti vers des dérivés, donc Alien vs Predator, le 2 Requiem. Bon, est-ce qu'on peut d'ailleurs les considérer comme des prédateurs à proprement parler? Je pose la question.
C'est un crossover en tout cas. Voilà, et crossover, d'ailleurs, ouais. D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles du Predator 2, parce que dans le Predator 2, il y a une scène où on voit un xénomorphe, donc Alien, qui fait déjà le lien.
Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, t'as la salle des trophées et tu vois un crâne de xénomorphe. Voilà. Donc ça n'a fait qu'amplifier le fantasme de fans sur
Alien et Predator.
Un jour, ils vont se rencontrer, ils vont s'affronter, quoi.
Et c'est arrivé. Est-ce que finalement, parce qu'on parle des suites, et c'est un peu... parfois, quand Hollywood veut absolument donner des suites, ils ne comprennent pas toujours ce qui a fait l'essence du premier film, et on va juste dans la surabondance de quelque chose. Et là, finalement, dans Predator, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on ne savait pas grand-chose, finalement, du Predator. Et avec les suites, et c'est encore le cas avec le dernier en date, on y reviendra, on fait l'origine story du Predator, etc. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça aussi, quelque part, qui... Je ne vais pas dire tue, mais qui amoindrit en tout cas l'impact des suites, c'est que finalement, on sait peut-être presque trop de choses sur le Predator.
C'est la difficulté d'ailleurs quand on a une licence qui fonctionne d'un coup, c'est qu'on se dit, oula, il va falloir un petit peu développer, alors que justement, le premier Predator est basé sur le mystère. On voit le Predator que 10 minutes avant la fin, et puis c'est tout, quoi.
On a un peu ça avec le Silence des Agneaux, où on voit très peu Hannibal Lecter. Exactement. Et dans Hannibal, on le voit tout le temps dans Hannibal, et ça casse un peu ce qui a fait le succès du premier, en fait.
Exactement. Et là, dans Predator 2, on était quand même encore dans un équilibre, parce que oui, on sait à quoi ressemble le Predator, on va un poil explorer le fait que ça soit un chasseur qui n'est pas juste obsédé par la Terre et par les États-Unis et qu'il est allé partout ailleurs, etc. Ça, ok. Et effectivement, Predator 2, pour l'avoir revu aussi récemment, moi, pendant longtemps, je me suis dit, c'est quoi cette bouse? Bon, c'est une suite de Predator, tout ça. Déjà, moi, j'étais pas trop fan du premier, mais je me dis, allez, je le mate comme ça. Il y a quand même un truc qui est résolument dans son époque, comme tu le mentionnes. C'est-à-dire qu'on est dans un film qui est dans le sillage de tout ce qui est Strange Days de Bigelow, tout ce qui est Escape from New York également, enfin, jungle urbaine,
oui.
Qui était une très bonne idée effectivement pour renouveler la formule. Et ce qu'on retrouve dans les autres suites de Predator, et pour le coup bah effectivement les Alien versus Predator, les deux qui sont assez immondes, peut-être on y reviendra, mais aussi bah, Predators et The Predators, c'est de vouloir en rajouter, de vouloir énormément développer, et en fait ça fait un globi-boulga où oui c'est un petit peu intéressant par moment de l'explorer, mais on se dit que ça aurait plus sa place dans un roman, dans un jeu vidéo peut-être, que dans un film de cinéma, quoi.
On est là en tout cas et on continue de parler de la saga Predator. Yérim, dans toutes ses suites, Paf vient de mentionner Alien Predator, il les a cités comme des films immondes.
Le 1, ça va, le 1 encore est sauvable, à peu près.
Est-ce que toi, de toutes ces suites-là, sans parler du dernier opus dont on parlera à la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu gardes, outre le premier qui est vraiment, je crois, unanimement vu comme un chef-d'œuvre, on est d'accord?
Ouais, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent même dans Alien Predator ou même dans Prey en 2022? Prey qui est une nouvelle itération de Predator qui a été plutôt salué, globalement, sans en faire des caisses, mais en tout cas, qui a plutôt été apprécié. Où est-ce que tu situes ce film?
Prêt en particulier?
Ouais, par exemple, ou...
Parce que, bon, déjà, il faut dire que même les deux sagas, c'est un exemple rare, mais tu vois, contrairement à Freddy versus Jason, où en fait, il est intégrable, genre c'est officiellement le Vendredi 13 numéro je sais pas combien, et le Freddy numéro je sais pas combien... Alien versus Predator, les deux sagas l'ont exclu de la continuité.
Ça n'est ni dans Alien ni dans Predator.
C'est ça, c'est vu comme un truc parallèle qui n'a rien à voir. Écoute, ouais, Prey, je dirais que c'était plus une bonne surprise qu'un bon film, parce qu'en fait, il y avait eu tellement de ratages précédemment qu'en fait, t'étais juste heureux de voir un film normal avec un Predator dedans. Et il y avait quand même cette astuce de déplacer, de changer d'époque.
Oui.
D'être chez les Comanches.
Exactement.
Donc, ouais, puis même d'avoir une héroïne, il me semble que c'était quand même une des rares fois où t'avais un personnage principal unique, parce que c'est pas un groupe, hein, c'est Naru, il me semble.
Tout à fait.
C'est elle, vraiment, qui est l'héroïne de ce film-là. Donc ouais, moi, c'était plutôt une bonne surprise. Après, je trouve quand même que le film a plein de défauts, notamment le côté... la gestion du fanservice, enfin, le fait de... faire redire à un Indien Comanche si ça saigne, alors on peut le tuer. Tu te dis, bon, tu sais, c'est comme ne la touche pas, sale pute, dans Hélène Romulus, dit par un androïde. Tu te dis, c'était pas obligé d'aller jusque-là, quoi, tu vois.
C'est aussi parfois le problème de ces sagas aussi qui sont un peu. coincé entre nostalgie
Donc on entre est presque... tradition et modernité
entre quelque part on est presque dans le reboot parfois et en même temps on veut créer quelque chose de nouveau. Alien Romulus, bon c'est un autre sujet mais c'est complètement ça,
c'est Alien Romulus, c'est le menu maxi best-of de la saga Alien quoi, en gros.
Ce qui n'en fait pas un film désagréable mais ce qui n'apporte rien en fait concrètement
Là, contrairement à tous les autres opus Alien qui essayaient, même ceux de Ridley Scott qui, alors je sais qu'il y a deux teams, il y a ceux qui aiment bien ceux de Ridley Scott, ceux qui aiment bien le 3 et le 4 mais qui à chaque fois au moins on peut dire que chaque opus apporte quelque chose de différent, apporte une patte différente. Là, les Predators, c'est vrai qu'à part le 2 qui essayait d'apporter quelque chose de différent, on a eu Predators qui était plus ou moins le 1 mais sur notre planète.
C'est ça.
Et The Predator qui était le 1 mais en mode E.T. quoi. Donc c'était pas le plus intéressant du lot. Et c'est vrai qu'au moins le Prey apportait un petit peu de nouveauté et essayait d'aller autre part. Et d'ailleurs, c'est aussi la proposition qui a été faite dans l'autre film Predator sorti cette année, c'est Killer of Killers, film d'animation aussi réalisé par Dan Trachtenberg, qui lui essayait d'apporter trois propositions très différentes avec un Predator face à une personne viking, face à un samouraï et face à une personne de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, au moins, ça a essayé d'apporter quelque chose de vraiment différent plutôt que juste d'essayer de refaire la même chose, quoi.
Manmat, toi qui as tout revu récemment, quel est le Predator que tu préfères si on écarte le 1? Peut-être que c'est même pas le 1 que tu préfères, même si bon, j'ai peu de doutes, mais...
Franchement, le 1, naturellement, ça reste le favori, forcément, mais en deuxième, je mettrai le 2. Et en dernier, au risque de choquer, franchement, Predator Badlands, il mérite une bonne place quand même.
Je suis assez d'accord.
Parce qu'il a ses défauts, mais c'est pour rebondir sur ce que disait Paf, par rapport au fait que, les pré-proposer quelque chose, ou Killer of the Killer proposer quelque chose, mais c'est pas parce qu'on propose toujours quelque chose de nouveau que c'est forcément génial. Et moi, perso, j'ai pas du tout accroché à Prey ni à Killer of the Killer, déjà de par le design. J'avais des frissons. Le Prey, vraiment, je m'arrachais les cheveux par rapport au fanservice qui, pour moi, vraiment, j'ai besoin de savoir. Ouais. Pitié, dites-le nous. Est-ce que le fanservice, ça vous fait plaisir? Est-ce que les gens ont vraiment besoin de ça? Vraiment, c'est une vraie question. Quoi. Mmh. C'est systématique et à chaque fois.
Quand Harrison Ford revient dans le Faucon Millennium avec Chewbacca 30 ans après, je suis un peu content. Voilà, je le dis. Il y a du fan service qui me fait plaisir.
C'est la dimension. Quelque part, c'est la Madeleine. Enfin, je sais pas si vous voyez ça. Là encore, oui, il y a des exceptions. Mais alors, la plupart du temps, comme pour Alien, Romulus, le coup du. Oh, là, j'étais comme ça. Ouais, c'est...
Par contre, tu as cité quelque chose d'intéressant. Tu as parlé du design. Et je crois qu'aussi, et tu l'as aussi un peu mentionné quand tu as parlé des dreadlocks du monstre. Quand on parle d'Alien Predator, il y a quand même deux choses importantes. C'est aussi à quoi ressemblent les monstres, en fait, qui sont iconiques. Alien, évidemment, mais aussi Predator. C'est qu'il y a un look qui est très différent. Dans quelle mesure aussi ça a joué dans le succès et même dans la fascination qu'exerce encore la créature aujourd'hui, parce qu'elle ressemble à rien d'autre. Il y avait aussi une vraie forme d'innovation là-dedans sur à quoi elle ressemble, Yuri.
C'est sûr. En plus, il me semble qu'il y avait eu des pré-versions où la créature ne ressemblait pas à ça.
Tout à fait.
Du coup, c'est là que tu vois quand même, dès le premier film, il y avait un soin apporté à ce monstre qui devait être plus qu'un simple monstre qui a une allure non humaine. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que le truc avec Van Damme ne correspondait pas, parce que pour la petite histoire, c'est que lui en fait il pouvait pas s'empêcher de vouloir faire des prises de kung-fu.
Exactement.
Et donc fatalement au bout d'un moment la prod a dit non, ça va vraiment pas le faire, parce que son physique dit quelque chose de la créature, de la même manière que le côté très sexuel et sexué des aliens dit quelque chose de cette race extraterrestre. En fait, les prédateurs, il y a ce côté le corps très très massif. D'ailleurs, c'est ça que tu perds en fait plus on avance dans le temps, c'est que vu que tout est, on va vers le tout numérique, donc t'as moins le poids. Mais disons que quand il fait face, notamment à un être humain, en sachant que c'est déjà, en général, soit des flics, soit des mecs assez baraqués et tout, et qu'en fait, tu vois que juste un pas du Predator, ça fait presque trembler l'écran et tout, tu dis, ok, ça fonctionne, le côté armure aussi. Et ils ont pas cherché à t'expliquer pourquoi les dreadlocks, pourquoi truc, c'est une race extraterrestre.
Exactement.
Et c'est comme ça. Donc ouais, c'est sûr que en termes d'innovation et de design de créatures réussies, oui, ça compte beaucoup, parce que si t'essayes de t'imaginer même les meilleurs films Predator, mais c'est un exercice compliqué, mais en les remplaçant dans ta tête par un extraterrestre classique, tu vois, en armure, tu sais, avec le petit scaphandre et puis un fusil laser, ça ne marche pas du tout. Enfin, vraiment, même en gardant le truc de la vision infrarouge et de l'invisibilité, ça ne marcherait pas.
Il y a même c'est une créature aussi qui est athlétique. Il y a quelque chose aussi qui est assez terrifiant là-dedans, dans le fait qu'elle est, elle a l'air assez terrifiante et surpuissante, quoi. Je propose qu'on écoute un morceau et juste après, on continue à parler, notamment de Van Damme. Qui s'est fait virer de Predator, on va y revenir, mais tout de suite, on va s'écouter un morceau de Josquin, extrait de son dernier album Dom Pérignon Crying. Le morceau s'appelle Mateus.
Tout de bien grâce à sa Deus, je pète une bouteille de Mateus. J'ai le flow de Brésil Vini, elle est sexy à l'infini. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui ont faim. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui vont cry. C'est à ma fin, y'en a d'autres sur la paille. Qui se lève tôt pour cette maille. J'ai tout vu, même l'envers du décor. J'ai même vu en dessous de l'iceberg. J'suis dehors comme un chat de gouttière. J'sais qu'il restera qu'un tas de poussière. La nuit tard, j'ride seul sous la lune. J'ai du mal à traverser la brume. Sur le bitume, trop d'amertume. J'tire, j'fume, j'fly sur Neptune. J'prends mon duche pour mon bif, j'm'arrache. Que la mi floreste nique sa race. Tout de bain grâce à sa Deus. Sur la plage, pète la taille de Mateus. Et la terre pose des cris d'erreur. J'ai payé, j'connais le prix de l'erreur. La vie ne m'a pas fait de cadre. Agora, tout de bien, muito obrigado. Tout de bien grâce à Deus. J'pète une bouteille de Mateus. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui ont faim. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui vont cry. Car j'ai rêvé un dernier hiver. Première classe, on s'envoie en l'air. 5 étoiles comme dans la CLSA. 2-3 passements de jambes, ils sont KO. Les yeux rouges, vitres remplis de sang. J'me suis donné à 100%. Regarde-moi dans le blanc de blanc. Regarde-moi dans le noir de l'iris. Dis-moi tout, bébé, fala comico. Commande une deuxième caipirine. Regarde-moi dans le blanc de blanc. Regarde-moi dans le. Regarde-moi dans le blanc des yeux. Regarde-moi dans le noir de l'iris. Désolé, je n'aime pas ce jeu. On ne joue pas avec le feu. J'prends sur moi pour contenir les nerfs. Le sang remplit le container. J'étais un chien devant l'abribus. Scam scam pour des habits de luxe. J'ai réclamé la paix dans mes prières. J'sens la zèbre alourdir mes paupières. J'regarde la ville à travers la window. Dis-moi tout bébé, fala conmigo. Ma chérie veut un dernier drink. Dans le noir, j'mets le black dans le pink. La nuit, je ne dors que d'un seul œil. J'pense qu'à remplir le portefeuille. J'prends mon duche pour mon bif, j'm'arrache. Que la mi-floreste nique sa race. Tout de bain grâce à sa Deus. Sur la plage, pète la taille de Mateus. Et la terre pose des cris d'erreur. J'ai payé, j'connais le prix de l'erreur. La vie ne m'a pas fait de cadre. Agora, tout de bain, muito obrigado. Tout de bain grâce à sa Deus. J'pète une bouteille de Mateus. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui ont faim. C'est à ma fin, y'en a d'autres qui vont cry. Car j'ai rêvé un dernier verre. Première classe, on s'envoie en l'air. 5 étoiles comme dans la CLSA. 2-3 passements de jambes, ils sont KO. Les yeux rouges, vitres remplis de sang. J'me suis donné à 100%. Regarde-moi dans le blanc de blanc. Regarde-moi dans le noir de l'iris. Dis-moi tout, bébé, fala comico. Commande une deuxième caipirine. Regarde-moi dans le blanc de blanc. Regarde-moi dans le. Muito obrigado.
Josquin, Mateus, donc extrait de son dernier album en date, et très bon album à mon avis, Dom Pérignon Crying.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Alors nous en parlions, Jean-Claude Van Damme avait commencé à interpréter la créature dans Predator, puis finalement ça ne s'est pas passé comme prévu, il a été viré du tournage, mais sa carrière s'en est plutôt bien portée par la suite, ça ne lui a pas porté préjudice. Je vous propose de parler de 3 acteurs qui ont commencé à tourner dans des films, qui finalement ont été virés, et pour lesquels les conséquences ont été un peu plus compliquées parfois en tout cas, et puis vous réagissez si vous avez envie de réagir. On va commencer en 1976, Francis Ford Coppola vient de finir Le Parrain 2, il est au sommet, il se lance dans Apocalypse Now, un projet pharaonique sur la guerre du Vietnam, un film dont on a beaucoup parlé, et choisit Harvey Keitel pour incarner le capitaine Willard, celui qui doit tuer un colonel devenu fou dans la jungle. Keitel tourne pendant plusieurs semaines, notamment les scènes sur le bateau, mais très vite Coppola doute, il trouve que Keitel est trop nerveux, il voulait un homme plus calme, plus introspectif, presque effacé, et un matin, sans prévenir, il le vire, remplacé par Martin Sheen, plus fragile, plus mélancolique, et qui finira lui à l'hôpital après une crise cardiaque sur le tournage. La version de The Doors avec les hélicoptères, c'est encore mieux que l'original. Donc finalement, Keitel rentre à New York et il lui faudra presque plus de 10 ans pour se refaire une place à Hollywood, notamment en revenant dans le Bad Lieutenant d'Abel Ferrara. Est-ce que vous auriez imaginé Harvey Keitel en Capitaine Willard. C'est tellement maintenant Martin Sheen. Mais pour information, ça, j'ai su assez tard, récemment, quand Harvey Keitel avait commencé à tourner. Est-ce que vous l'auriez imaginé
dans Tu me l'apprends déjà, cette information-là, mais c'est surtout que.
Il y a des images de lui sur le tournage. Ouais.
Parce que Apocalypse Now, il y a eu tellement de problèmes.
C'en est un de plus.
C'en est un de plus, et ça a fait le film que ça a fait. C'est presque un peu terrible d'ailleurs à ce niveau-là, la quantité qu'il y a de problèmes dessus, parce que le film est tellement magnifique qu'on peut que se dire, en fait, il suffit qu'il y ait des problèmes dans un film pour qu'un film devienne magnifique, ce qui est un peu compliqué, mais effectivement, Keitel, moi, je peux à peu près l'imaginer, parce que c'est, je trouve que le Apocalypse Now est beaucoup aussi porté par Marlon Brando sur la fin. Ça, pour le coup, c'est beaucoup plus difficile de le remplacer dans ma tête, mais effectivement, moi, j'imagine Martin Sheen qui nous prend par la main dans Apocalypse Now.
Et complètement possédé dès les premières scènes.
Tout à fait. Surtout que j'ai l'image de Harvey Keitel, Tarantino, donc vraiment des rôles plus durs que ça, que vraiment avec Martin Sheen, effectivement, son côté un peu plus frêle, comme tu le mentionnes, il nous porte vraiment dans Apocalypse Now.
Alors, on change complètement d'ambiance. 1985, Steven Spielberg et Robert Zemeckis tournent une petite comédie de science-fiction avec un adolescent et une DeLorean. Retour vers le futur, le rôle principal, celui de Marty McFly, revient à Eric Stoltz, un acteur respecté, plus dramatique, un peu intense. Problème, après 5 semaines de tournage, Zemeckis regarde les rushs et réalise que ça ne marche pas. L'acteur est trop sérieux, il joue la comédie de manière un peu trop investie, mais sans humour, il ne dégage pas la légèreté que Spielberg voulait.
All right, guys, listen, this is a blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay?
Alors, ils font un truc complètement fou. Ils le virent. Après plus d'un mois de tournage, ils refont toutes les scènes avec Michael J. Fox, qui à l'époque tournait une sitcom le jour et Retour vers le futur la nuit. Résultat, le film est devenu culte, un symbole des années 80. Et Eric Stoltz, lui, disparaît de la légende, on le voit même pas dans le générique. Et tu parlais de Tarantino, il joue notamment dans Pulp Fiction. Et c'est intéressant parce que pour le coup, les deux acteurs se ressemblent physiquement. Et Michael J. Fox, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui les rapproche physiquement. Est-ce que là, vous l'auriez imaginé? C'est compliqué puisqu'on connaissait pas les deux.
Ouais, qui est Eric Stoltz? C'est aussi ça le problème.
Surtout que là,
c'est quelqu'un qui ressemble comme deux gouttes d'eau, Michael J. Fox.
C'est ça. Mais là en plus, c'est un peu salaud pour lui. Mais il y a, c'est trouvable, tu vois, des images et tout, le tournage, machin. Et n'importe qui ayant vu Retour vers le futur, même si c'est pas un film que t'estimes plus que ça. Enfin, la différence, elle est assez accablante, parce qu'ils sont pas du tout sur le même registre, donc ça fonctionne.
Et c'est
pas.
Surtout qu'ils voulaient de base, il me semble, Michael J. Fox, et qu'effectivement il y avait ce tournage de sitcom où ils se disaient du coup c'est pas possible, bon on prend Eric Stoltz, donc c'est le deuxième choix un peu pas terrible. Et pendant le tournage, ils disent oui effectivement c'est nul. Et c'est là qu'ils s'arrangent effectivement pour se dire on tourne le jour et la nuit, on s'arrange entre nous, etc. Tellement ils voulaient ce Michael J. Fox et que c'est lui vraiment qui a porté le film effectivement quoi.
Alors autre exemple. Un peu plus récent, Doug Ray Scott. Vous connaissez Doug Ray Scott ?
Ouais, le méchant de Mission Impossible 2, et qui est par ailleurs le mari de Claire Forlani.
Ah, j'adore Claire Forlani. Ouais, je l'adore tout rencontre ça, avec Joe Black, et jouer la fille de Sean Connery dans Rock.
Oui.
Mais j'aimais beaucoup cette actrice. Eh bien, bravo. Donc, est-ce que tu sais de quoi je vais parler ?
Du tout.
Eh bien, t'es pas loin pourtant.
Attends, il devait pas jouer Wolverine.
Exactement. C'est ça. Il était Doug Ray Scott, donc acteur britannique, qui était promis à une grande carrière. On est en 99. Donc Bryan Singer prépare X-Men et Scott a décroché le rôle de Wolverine. Exactement. Mais il tourne en parallèle Mission Impossible 2 avec Tom Cruise. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe avec Tom ? Le tournage déborde, trop de cascades. Et donc, quand Singer l'appelle, Scott doit choisir Mission Impossible ou X-Men. Il décide de rester sur Mission Impossible et perd tout. Le studio le remplace par un Australien inconnu, Hugh Jackman. La suite, on la connaît, hein. Jackman est devenu une star mondiale, il incarne Wolverine pendant presque 20 ans, et Scott tourne dans des séries télé britanniques, un simple décalage de planning qui change une vie entière. Voilà, j'imagine que vous ne l'aurez pas imaginé, de Grey Scott, puisqu'on ne le connaît pas vraiment.
Qui est-il?
Mais qui jouait un méchant dans Mission... Tu l'avais bien aimé dans Mission Impossible 2?
Pas tellement, non, il est quand même... Non, je suis d'accord, il est assez transparent. Même, il avait joué aussi dans Hitman en 2007. D'ailleurs, comme Claire Forlani, hein, finalement, ils ont eu des carrières assez relativement modestes, hein, par rapport à leur potentiel. Enfin, surtout Claire Forlani, mais le potentiel de Grey Scott, c'est... Bah, maintenant, j'ai envie de voir, en fait, faudrait qu'on prenne DeLorean et puis qu'on revoie comment ça donne Eric Schultz dans le rôle de... à la place de...
On sait aussi que Tom Selleck était le choix premier pour Indiana Jones.
Il a fait
des essais, etc. Avec Karen Allen. Et là...
Voilà, c'est pareil. T'arrives pas.
C'est impossible.
Parce que t'as Magnum dans la tête, donc tu l'imagines toujours.
Est-ce qu'il est avec sa moustache, sans sa moustache? Et surtout, je crois que du coup, Spielberg voulait pas le prendre à la base Harrison Ford, parce que c'était un de ses premiers... Enfin, c'était un choix recommandé par Lucas.
George Lucas, exactement.
Il le connaissait, il disait, ouais, mais en fait, ça fera trop. Tu vois, il a Han Solo, il a ce rôle-là, ça fera trop. Bon, au final, il a les deux rôles, tant mieux.
Tant mieux, tant mieux. On revient tout de suite pour parler de monstres et de prédateurs au cinéma. Messieurs, petit jeu, vous allez élire le meilleur monstre du cinéma. Est-ce que c'est Predator ou pas? On commence par Predator, je vous donne des autres monstres à côté, vous me dites si vous les préférez ou pas, pourquoi? Évidemment, c'est d'en parler. Et on va directement commencer. Vous êtes plutôt Predator ou Alien?
Oh, Alien.
Directement là-bas, moi, je sais pas.
Déjà, si on juge uniquement par rapport au film, je trouve quand même que la majorité des Aliens sont des très bons films.
Mais on parle du monstre. Hein.
Ah oui, mais... Déjà, juste à juger des films, bon, il n'y a pas débat, mais par rapport au monstre, effectivement, moi j'adore le design de Giger pour Alien, je trouve qu'il est vraiment génial et qu'il est assez pluriforme en plus, alors que celui de Predator, il ne s'adapte pas, je trouve, à tous les contextes. Justement, Shane Black avait essayé de le mettre dans un côté plus militarisé et ça ne marchait pas très bien, donc pour moi c'est Alien, ouais.
Alien ou King Kong? Du coup, c'est Alien pour l'instant.
Toujours Alien. Hein.
C'est un méchant, enfin c'est un monstre King Kong. C'est...
Bah, j'en ne connais pas beaucoup des gorilles aussi grands en tout cas. Donc on peut considérer que c'est une créature un petit peu monstrueuse.
Non, il est victime des circonstances.
D'accord, bon, on élève King Kong. Alors, Alien ou Godzilla?
Ah, compliqué.
Alien. Mais après, ça dépend. Est-ce qu'on parle de peur? Parce que là, oui, l'Alien, c'est, il remporte haut la main la palme du...
C'est ça, ouais. Quel est le monstre qui nous effraie le plus?
T'as la peur et t'as le dégoût. C'est-à-dire, les aliens, jusqu'à leur mode de reproduction, en fait, tout est horrible. C'est-à-dire, t'as pas une seule forme d'alien où tu dis, oh non, ça peut gérer tranquillement. Dès que t'as une nouvelle forme, enfin, elle est pire que les précédentes. Ils sont... Enfin, de toute façon, même dans les... Moi, j'aime pas trop quand Ridley Scott est revenu sur sa propre saga, mais la séquence, je crois, de Covenant que j'ai préférée, c'est le labo de David, l'androïde.
Oui.
Parce qu'en fait, ils avaient récupéré des croquis de H.R. Giger et... ou Giger, j'ai jamais su comment ça se prononce.
Giger, je crois. Hein, Giger, je sais plus, en fait, ouais.
Et tu vois quoi, il y a des trucs vraiment... Enfin, c'est... Le mec était complètement fou... Et limite, la réussite d'Alien, c'est les réels d'un côté et vraiment ce design horrible, quoi.
D'ailleurs, pour les personnes qui vont en Suisse prochainement, je conseille à tout le monde d'aller dans le village de Gruyère, la ville de Gruyère. Il y a un musée que j'ai pu visiter en hommage à H.R. Giger, okay. Je sais pas comment on dit, mais qui est assez impressionnant. Effectivement, on voit à quel point il y avait une esthétique très particulière qu'on retrouve dans Alien, mais qu'on retrouve
en gros, c'est ultra phallique quasiment tout le temps. Hein.
Exactement.
Donc, disons-le.
Quand tu vois le reste des œuvres, tu revois Alien un peu différemment. Est-ce qu'il a éventuellement voulu dire? Tu comprends qu'il y a beaucoup de. Bon, on est d'accord, c'est Alien le meilleur monstre du cinéma.
Ouais.
Plus terrifiant, c'est dur, parce que Godzilla aussi, je trouve qu'il a un côté très métaphore pluriel, c'est-à-dire que ça a été utilisé comme une métaphore de la guerre, comme une métaphore. Plus récemment d'ailleurs dans Minus One, comme une métaphore du trauma et du biais du survivant, comme une métaphore des catastrophes naturelles avec Shin Godzilla. Donc en fait c'est un monstre qui est tellement pluriel et effectivement peut-être qu'il perd un peu en identité parce que ça a aussi été une mascotte positive. Effectivement, donc de ce côté-là il fait pas très bien peur ce Godzilla par moment, et on est plutôt même de son côté, par endroit, là où l'alien effectivement c'est quasiment tout le temps l'antagoniste, même dans les Aliens versus Predator, on est plutôt du côté du Predator
oui.
que des aliens.
Oui, c'est ça, c'est que du coup le Predator étant plus rationnel, lui en fait, il... alors déjà il tolère pas l'existence du Predalien puisque évidemment ils ont pas pu s'empêcher de oui. faire infecter un Predator et du coup ce qui en sort c'est donc le Predalien, même le nom est nul.
Oui.
Donc c'est un alien encore plus grand, encore plus fort avec des dreadlocks et qui peut fécondé par... il a toujours la double bouche des aliens, sauf qu'il peut pondre des œufs dans des femmes enceintes, enfin... C'est absolument...
Quelle idée.
C'était assez ignoble. Hein. Mais, bon. Mais ceci dit, moi, c'est un peu un plaisir coupable, Requiem, que j'ai vu une seule fois, par contre. Mais parce qu'en fait, c'est tellement stupide que ça en devient... Tu sais, c'est nul marrant. C'est-à-dire que à la seconde où t'as les deux chasseurs... un père et son fils qui chassent, ils se font infecter par des facehuggers, donc, ce qui veut dire qu'après, t'as deux cadavres avec un trou béant dans le thorax, et il me semble l'adjoint du shérif déboule et regarde ça et dit « C'est sûrement une attaque d'ours !» Tu fais « Ok, on est parti, allez, c'est bon !»
Je crois qu'il va instantanément voir des SDF et dire « C'est pas toi qui as fait ça par hasard !» Ok, trop bizarre. Mais c'est surtout, Requiem, il est sombre, on ne voit rien.
Il n'y a pas d'éclairage dans le film, tu comprends pas.
Cache-misère.
Messieurs, on va poursuivre cette conversation. Ouais. On va d'abord écouter un morceau parce que vraiment ça devient dégueulasse, je vous dis comme je le pense. Bon, on s'écoute tout un morceau de Gorillaz et Idols, The God of Flying, qui sera extrait de leur album à venir, The Mountain, le 20 mars 2020. 26 prochain.
Who am I? Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. Father, anointed by fear of death. Do you feel the lies creep on by as soft as baby's breath? Do you beg that truth will set you free? Are you shackled by the keys? Well, if I was you, I'd stay strapped in, 'cause all you've got is me.
Gorillaz, donc God of Flying, extrait de leur album à venir. Finalement, Gorillaz, c'est aussi un monstre.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Une cohérence dans la programmation de cette émission. Et on parle de Predator car il y a un nouvel opus qui vient de sortir, Predator Badlands.
Bienvenue sur la planète la plus dangereuse de l'univers. Tout ce qu'il y a ici essaiera de te tuer.
un coup de main?
Tu es là pour faire tes preuves. Chasser quelque chose qui ne peut pas être tué.
On n'est peut-être pas les seuls à chasser.
Bande annonce donc du dernier film qui est actuellement en salle. Moi j'ai fait mon baptême de feu avec la 4DX avec ce film, donc j'ai mal au dos là. Voilà, ça a été très mouvementé.
C'est le Futuroscope, c'est génial.
C'est exactement, c'est le pavillon de la Vienne pour ceux qui sont déjà au Futuroscope, mais avec un peu plus de moyens quand même. Man Matt, tu disais que tu avais plutôt aimé le film. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce dernier opus ?
Eh ben écoute, j'étais agréablement surpris. Alors je m'attendais à rien, je partais du principe que bon, ça allait être mauvais. J'avais pas regardé la bande-annonce pour justement éviter de trop me spoiler, c'est généralement ce que j'évite de faire. Et puis finalement, bah, je me suis laissé porter par l'histoire. Et bah oui, effectivement, agréablement surpris. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait quand même une certaine forme de prise de risque, parce que bah on découvre une nouvelle planète, des nouveaux, des comment dire, bon, je ne veux pas spoiler, mais ce qui m'a plu, c'est que bah on arrive dans un nouvel univers, un nouvel environnement, avec des nouvelles créatures, des nouvelles plantes, des choses comme ça. Et ça, c'est ce qui m'a porté. Je me suis dit,
Et on est du point de vue du Predator,
oui,
pour le coup.
C'est ça, c'est. De son point de vue, alors après, on peut reprocher le fait qu'on cherche à le sensibiliser, mais moi, j'ai pas vu tant de sensibilisation par rapport à ce prédateur, parce qu'il reste toujours aussi, aussi déter, aussi énervé, toujours propre à rester un grand chasseur. Et en soi, je ne comprends pas trop les critiques négatives par rapport au film, sans hurler au chef-d'œuvre. J'estime que c'est un bon divertissement. Et on voyage. Ça que j'ai aimé, c'est qu'on voyage, on est sur une autre planète, où, bah oui, bah, un nouvel environnement, et un nouveau, on s'approfondit dans un autre lore. Et c'est pour ça, pour moi, j'ai trouvé ça. Relativement cool pour un film de 2025 surtout. Bah,
je suis d'accord avec toi, Paf.
Justement, ce côté très inventif en termes de tout ce qui se passe à l'écran, en termes des espèces qu'on retrouve, etc. Je trouve que ça fait très Star Wars, mais
j'allais le dire,
les Star Wars originaux. Et d'ailleurs, il me semble que Dan Trachtenberg, très dur à prononcer, pardon, a dit récemment en interview qu'il s'était inspiré pour l'intrigue et pour cette collaboration du coup entre le Predator et un androïde de la Weyland-Yutani, puisqu'on reste quand même dans du Alien aussi et dans une forme de pré-crossover Alien vs Predator. Il s'est inspiré du début de Star Wars épisode 4, notamment de la recherche entre C-3PO et R2-D2, où ils sont dans un désert, ils apprennent à apprendre de leur environnement, tout ça, et ils sont assez polés tous les deux. Et je trouve que c'est quelque chose où on est effectivement sur une sorte de double retournement dans ce Predator, puisque comme tu le dis, là, on est du point de vue d'un Predator, mais aussi, c'est un Predator là où tous les Predators précédents, on apprend à, enfin, globalement, les gens, l'équipe se réduit de plus en plus, jusqu'à finir sur deux, trois, peut-être une personne. Là, en fait, il va devoir apprendre à s'ouvrir de plus en plus et à avoir de plus en plus des compagnons. Mmh. Alors, tout en respectant son code, le code Yautja, mais ça reste tout de même ultra intéressant, je trouve, ce double retournement qu'on retrouve dans ce Predator Badlands.
N'empêche, qu'est-ce qu'il prend cher dedans quand on y pense?
Ah oui, dès le départ.
Oui, dès le début, ça n'arrête jamais.
On encourage en tout cas les gens plutôt à aller le voir, mais messieurs, c'est l'heure de la question qui tue. Vous allez voir, je sens Paf angoissé. Vous allez voir, elle est... Comme on parlait de Predator de 87, c'est un film avec Schwarzenegger, la question est simple. Vous avez droit à une réponse chacun, rapide s'il vous plaît, car on manque de temps. Quel est pour vous le meilleur film avec Arnold Schwarzenegger? Est-ce que c'est Predator? Est-ce que c'est le meilleur rôle de Schwarzenegger?
Terminator 2 pour moi.
Terminator 2 pour toi, ouais. Ok. Parce qu'ici, on en a beaucoup parlé aussi. Et je sais que Gilles Lelouch, par exemple, préfère le 1. Il trouvait que le 2 était un film un peu bisounours. Je le trouvais un peu dur. Mais en tout cas, il était un grand fan du 1 qui est très terrifiant aussi.
Oui, bien sûr.
Mais Terminator qui est aussi un monstre, quelque part, qu'on aurait pu... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Moi, je reste chez McTiernan et je dis Last Action Hero.
Ouais, toi, t'es un puriste, toi.
Bon chef-d'œuvre, son chef-d'œuvre, donc magnifique.
Pour toi, c'est le plus grand McTiernan?
Pour moi, c'est son chef-d'œuvre, ouais, tout à fait. Parce que c'est celui qui déjà faire un film qui parle de cinéma, généralement, c'est des chefs-d'œuvre. Donc, c'est sûr que celui-là en fait partie.
Man Matt.
Alors, j'étais parti pour... là, je risque de choquer tout le monde. J'étais parti pour
dire... La course
au
jouet, il va nous dire la course au jouet.
Ah, me tente pas. J'étais parti pour dire Total Recall, mais avec le recul, j'aimerais te parler d'un petit film sous-côté. J'ai adoré ce film, c'est À l'aube du sixième jour.
Ah, un film plutôt vers les années 2000.
Oui, là, on termine les années 90, on rentre tout doucement dans les années 2000. C'est vraiment une décennie particulière, c'est une époque particulière entre 99 et 2001. C'est vraiment un genre de cinéma assez particulier, assez optimiste en réalité. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé celui-là, quoi, avec tout ce qui est clone, futur... C'est pas du tout un chef-d'œuvre, loin de là, mais il y a énormément de bonnes idées. C'était surprenant de voir Schwarzenegger justement dans ce petit film. Donc c'est pour ça que je le défends. Hein. J'essaye de.
Non, mais c'est bien. C'est
de le réhabiliter. Hein.
Et qui finalement, c'est vrai que parfois on peut caricaturer un peu la filmographie de Schwarzenegger, quand même. assez impressionnante, avec très bons réalisateurs aussi. C'est quand même quelqu'un qui a toujours su choisir, bosser avec des grands réalisateurs. On parlait de McTiernan, les James Cameron, etc. Enfin bref, et j'en oublie énormément. Donc il y a quand même beaucoup de bons films, je trouve. Il n'y a pas un ou deux rôles. Là où pour Stallone, je crois qu'on dirait tous Rocky.
Ouais, mais parce que c'est lui, quoi.
Ouais, parce que c'est lui, exactement. Bon, messieurs, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Yérim, d'avoir été là.
Bah, merci de l'invitation.
Merci, Paf. Merci, Mad Matt, vraiment.
Merci à vous tous.
Et si on vous a donné envie, soit de tout revoir dans la saga Predator comme Mad Matt, ou moins le dernier, eh ben c'est cool, qui vraiment, je crois, mérite d'être regardé. Merci aux personnes qui ont préparé cette émission, Alexia Lacour, Redouane Tella, une émission réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Florian Dorimini et Tilay Ravut. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, les amis, nous serons avec Laurie.
Oh, oui.
C'est ça le divertissement que je vous propose.
Faut se mouiller la nuque.
Pour découvrir, on passe de Predator à Laurie. C'est ça la pop culture. Pour découvrir, redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France. Et à demain. Donc.